marche du monde.
Je vais raconter la bataille de Dibiétfou, mais tout d'abord une question de première importance, une question de principe. C'est que ce n'était pas une guerre entre deux peuples. La guerre d'Indochine, ce n'était pas une guerre entre le peuple vietnamien et le peuple français.
Dien Bien Phu est le symbole vivant de l'invincibilité de la cause de notre peuple.
Général Chiap.
Et je crois que Dien Bien Phu est à la fois la victoire du Vietnam, la victoire aussi pour les gens qui aiment la paix.
Alors, qu'est-ce que c'était la guerre d'Indochine? C'était une guerre entre le peuple vietnamien et le colonialisme français. C'est pourquoi les Vietnamiens disent toujours que c'était une guerre de résistance contre les colonialistes français. C'est pas contre le peuple français.
La marche du monde est à Hanoï à la rencontre de Monsieur Son, mais aussi de Madame Thuan, Monsieur Nam, Oncle Mai ou encore Madame Touc. Après 9 longues années de guerre, ils sont tous à Dien Bien Phu le 7 mai 1954. 54, c'est donc l'année de la libération nationale pour les Vietnamiens, mais c'est aussi le début de la fin pour l'Empire colonial français.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Deuxième épisode des Enfants de Dien Bien Phu sur RFI, nous retrouvons Monsieur Son, devenu agent de renseignement dans l'armée populaire vietnamienne.
À Dien Bien Phu, j'étais très jeune, 22 ans, imberbe, très pâle, très maigre. Je pesais 46 kilos et 100 gallons. Il y avait souvent des situations très amusantes, très intéressantes. Certains prisonniers refusaient à répondre à mes questions. Parce que il me demande, vous avez quel grade? Je dis, chef de section, c'est quoi? Je dis que nous n'avons pas de galop. Que c'était pas important, le grade. Mais répondez à mes questions, s'il vous plaît. Les Français me disaient dans l'armée, même les prisonniers, ne répondaient aux questions que posées par des officiers du même grade ou bien supérieur. À moi, je suis lieutenant, je ne réponds aux questions que des lieutenants, des capitaines, et pas à vous. Alors je dis, je fais venir mon chef de bataillon. Il parle français, mais je vous préviens qu'il sera plus dur que moi. Voilà. Et alors l'officier français prisonnier me dit, non, je réponds tout de suite. Voilà des souvenirs comme ça.
Quelles étaient les méthodes utilisées pour faire parler les prisonniers qui ne voulaient pas
convaincre,
parler?
Convaincre. Il faut expliquer d'abord qui sommes-nous, l'armée Viet Minh. Nous sommes des soldats de l'armée populaire, c'est-à-dire de l'armée révolutionnaire. Ce n'étaient pas des rebelles, des assassins comme la propagande colonialiste. Voilà, nous sommes des êtres patriotes d'abord. La méthode principale, c'est la conviction, c'est de convaincre les prisonniers. Et je vous assure, vous pouvez croire ou non, mais pas de torture, pas de violence. Jamais de violence, même en gifle. Moi, j'étais dans l'armée pendant presque toute la guerre d'Indochine. Toutes les tortures, toutes les brutalités vis-à-vis des prisonniers étaient punies sévèrement.
Monsieur Son, vous étiez chargé des interrogatoires, puisque vous parliez un excellent français et vous parlez toujours un excellent français. Est-ce que vous avez aussi interrogé des tirailleurs africains qui étaient dans l'armée française?
Tout. J'ai interrogé tous les prisonniers, quelle que soit leur nationalité, les Français, les Marocains, les Algériens, les Malgaches, les Allemands. Dans la Légion, beaucoup d'Allemands.
Est-ce que parfois, dans votre interrogatoire avec des tirailleurs africains, certains ont épousé votre cause? Est-ce que vous avez eu des discussions sur leur situation à eux aussi? Est-ce que c'est arrivé que ça aille au-delà de l'interrogatoire et qu'il y ait
un
contact?
Alors des causeries, des discussions. libre, parce que j'avais carte blanche pour parler aux prisonniers. J'avais des discussions amicales, très calmes. Le problème principal, qui sommes-nous? Et pour qui et pourquoi nous combattons? Voilà, c'est ce sujet principal.
Avec des Africains?
Avec des Africains. Et même avec des Français. Vous voyez, je parle français. Dans mon sac, il y a des romans français. Et j'ai lu des romans français dans les tranchées. Nous ne sommes pas des barbares. Et puis, j'explique. Le Viet Minh, c'est le nom du front de lutte pour l'indépendance du Vietnam. C'est Viet Minh. C'est le nom du front de libération nationale. Une cause juste. Voilà. Les Africains, surtout. Les Algériens, les Marocains, ils comprennent très vite. Plus vite que les Blancs.
Monsieur Son, vous pensez que leur expérience en Indochine a joué dans leur révolution en Algérie?
Voilà, il y a des liens très étroits et très logiques entre deux révolutions. Les Algériens, par exemple, ils sont convaincus qu'un peuple opprimé, exploité, comme le cas des colonies françaises, les peuples opprimés peuvent vaincre dans la lutte pour l'indépendance de leur pays. L'exemple du Vietnam a convaincu les autres peuples qu'un peuple retardataire, arriéré économiquement, un peuple qui vivait encore dans la pauvreté, même dans la misère, si ce peuple est déterminé à combattre pour l'indépendance, ce peuple vaincra. Et de leurs yeux, les Nord-Africains ont vu que c'est possible. Parce que ce n'était pas comparable, les deux armées, au point de vue technique, matériel. En conclusion, je voudrais dire que la révolution vietnamienne est vraiment contagieuse.
Avec l'aide de la Chine, la guérilla Viet Minh est devenue une guerre moderne et le général Giap, son génie militaire. À partir de 1950, la mobilisation de masse et l'artillerie préparent l'incroyable victoire. Lorsque vous commencez votre marche vers le nord-ouest avec votre division, oncle Mai, est-ce que vous connaissez votre destination?
Non, je ne connaissais pas la destination parce que nous avons commencé la marche début novembre 1953. Ça veut dire que les Français n'étaient pas encore à Dien Bien Phu. Il n'y avait pas encore d'opération de parachutage dans la vallée.
Lorsque vous accomplissez cette marche, à quoi ressemblez-vous? Comment êtes-vous habillé? Que portez-vous? Comment faut-il vous imaginer?
Comme j'étais agent de liaison, je ne devais pas porter des équipements de combat. Mais j'avais sur moi les affaires personnelles d'un soldat. C'est-à-dire un sac avec mes vêtements, deux grenades, de l'eau et surtout beaucoup de riz. À chaque marche, nous emportions chacun 10 jours de riz. Dans notre unité DCA, c'était 12 kilos de riz par personne. Nous marchions la nuit parce que le jour ce n'était pas possible. Souvent on se mettait en route vers 5 heures de l'après-midi. Et au bout de 30 km à peu près, on pouvait s'arrêter vers 1h ou 2h du matin. On installait le campement dans la forêt, sans personne autour. On ne pouvait pas avoir de contact avec la population. On devait faire deux choses à chaque fois qu'on s'installait. D'abord, creuser son abri personnel pour se protéger d'éventuels bombardements et trouver des feuillages dans la forêt. Et après, il fallait monter des moustiquaires pour éviter l'attaque des moustiques. C'était obligatoire.
Ni Monsieur Mai, ni Monsieur Kui ne connaissent la destination finale de la longue marche vers Dien Bien Phu. Située dans le nord-ouest du Vietnam, la préfecture de la zone frontalière avec le Laos est habitée par les minorités Thaï. C'est là que les Français ont établi le QG de leur corps expéditionnaire.
Au moment de la marche vers les fronts, c'était l'euphorie. Il y avait toutes sortes de populations, toutes sortes de militaires. Nous avions tous la même destination. On avait l'espoir et confiance dans la victoire. C'était un peu exagéré, parce que ça allait un peu trop vite. Je me souviens du 26 janvier 1954, notre unité était proche des Lian 2. Si les combats avaient éclaté à ce moment-là, ça aurait été très difficile de gagner.
Pour vous donner du baume au cœur, vous chantiez, vous parliez entre vous, vous repreniez des slogans. Faites-nous partager cette ambiance.
Trên đường đi thì hát những cái bài hát truyền thống, ví dụ như là chúng tôi hát bài cao bắc lạng, thế rồi hát.
Nous avons chantonné de vieilles chansons connues dans nos campagnes, comme les chansons du Nord-Ouest, des chansons des fronts où nous avions gagné. Il y avait aussi des groupes d'artistes qui sont venus produire des spectacles. Et quelquefois, en forêt, la nuit, on ne pouvait pas avoir de lumière. Nous avons utilisé des torches pour éclairer, pour que les artistes puissent se produire.
Vous vous souvenez de ces chansons, justement ? Vous pourriez nous en faire partager une ?
Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa suối sâu đèo cao bao khó khăn ta vượt qua bộ đội ta vâng lệnh cha già về đây giải phóng quê nhà.
Monsieur Kui a peut-être croisé Madame Thuc sur la route de Dien Bien Phu, jeune artiste engagée dans une division armée. Elle soutient depuis plusieurs années le moral des soldats.
Và lúc nào mình biểu diễn tức là khi đến cái nơi nào đó là có những cái rừng cây tre phủ thì núp dưới những tán lá.
Il nous arrive de nous produire la journée parce qu'il y a des pauses et il y a de grandes forêts. Nous avons utilisé les parachutes ennemis pour nous costumer et on a produit des petits spectacles pour les soldats.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'étaient ces spectacles, justement ? Qu'est-ce que vous jouez comme rôle dans ces spectacles ? Est-ce que vous faites du théâtre ? Est-ce que vous chantez ?
Le plus souvent, nous donnions des spectacles la nuit, quand on était au repos. Comme il n'y avait pas de lumière, on demandait aux soldats d'allumer des briquets pour faire une sorte de lumière vague. Moi, je chantais et je dansais. C'était difficile de faire une vraie pièce de théâtre.
Qu'est-ce que vous chantiez ? Donnez-nous un exemple, qu'on puisse l'entendre.
Cette chanson est intitulée « Le riz du mois de mai ». C'est une manière d'encourager les militaires qui partent au combat. Les paroles évoquent les femmes à l'arrière qui récoltent le riz pour l'envoyer au front. Il y avait une sorte de compétition entre les femmes de l'arrière et celles du front. Le but commun, c'était de battre les Français, de battre l'ennemi.
Madame Thuc chante pour les Bodoï, les soldats de l'armée populaire vietnamienne qui tous convergent sur Dien Bien Phu. Ils vont être 51 000 à se camoufler dans les montagnes dominant la cuvette. Le ravitaillement et les munitions sont acheminés grâce aux camions soviétiques, tout comme les équipements de santé. Et fin décembre 1954, le camp retranché français est totalement encerclé. Madame Thuan, engagée dès l'âge de 15 ans dans la Révolution, devient infirmière à Dien Bien Phu.
Lúc tôi ở Dien Bien Phu, tôi đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Y. Tổng đồng viên cùng ra đi với một tất cả cả lớp
quand je suis partie à Điện Biên Phủ, j'étais encore étudiante en deuxième année à la faculté de médecine. Nous sommes partis toute la promotion, élèves et professeurs ensemble, d'après une mobilisation du département de la santé de l'armée.
Cho nên khi tôi đi vào thì là đi lên thì cũng phải đi nhanh mà cũng cái đường đi thì vất vả lắm.
Il fallait donc aller très vite vers les fronts. La marche était assez pénible. Nous marchions tout le temps et comme les autres militaires, nous avions sur nous des affaires qui étaient assez lourdes.
Qu'est-ce que vous aviez sur vous exactement, Madame Toan? Qu'est-ce que vous portiez?
Tout d'abord, j'avais un sac de riz qu'on mettait autour du ventre. Après, il y a un sac à dos avec des affaires personnelles, le minimum. Et puis, comme on était encore étudiants, nous avions aussi sur nous des cahiers pour noter des informations, les archives et des connaissances.
Và tất nhiên là có phần chia của những số dụng cụ mà mỗi người phải.
Et bien sûr, comme nous sommes les personnels du corps médical, nous avions sur nous aussi des équipements de soins qu'on partageait entre nous, comme des médicaments, des boîtes pour du coton, pour les pansements.
Vous avez rejoint un poste hospitalier?
Vâng, đấy là gọi là đội điều trị hai, là những cái đoàn phẫu thuật gồm có nhiều người một.
Oui, je suis arrivée à l'unité de soins numéro 2 composée de 100 à 120 personnes.
Khi tôi đến thì là đơn vị tôi đã triển khai công việc trước rồi và cũng đã chia ra thành từng phần một.
Quand je suis arrivée à cette unité-là, les autres ont déjà reçu des missions différentes. Ils étaient déjà bien installés. Ils m'ont donc affectée dans un service avec des travaux plutôt légers.
Madame Toan, tout comme Monsieur Kui, dont le père est déjà mort en expérimentant de nouvelles armes, partage le même idéal, libérer le peuple vietnamien du joug colonial.
Tôi có hai vấn đề cơ bản nhất trong cuộc đời mà tôi xác định. Thứ nhất là tôi đi tiếp cái nghĩa vụ đối với bố tôi.
Vous savez, j'ai deux principes dans la vie. Le premier, c'est de continuer la voie de mon père. Le second, c'est de me battre pour l'indépendance de mon pays, pour sa liberté. Mais pour ça, il faut prendre les armes et peut-être même tuer. Pourtant, je n'ai jamais souhaité abattre qui que ce soit pour atteindre mon objectif. Beaucoup plus tard, j'ai pu lire les œuvres de Ho Chi Minh. Et plus je lis ce qu'il a écrit, plus je ressens une reconnaissance envers la France. Parce que c'est la France qui lui a inculqué les bases de sa prise de conscience pour la liberté et l'indépendance.
Les enfants de Dien Bien Phu nous racontent leur victoire du 7 mai 54, juste après les infos, sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. La marche du monde.
Oncle Mal, merci de nous recevoir chez vous à Hanoï. Je vois qu'au-dessus de votre canapé, il y a une carte. Montrez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette carte ? Ah oui, vous prenez votre baguette d'instituteur pour me la décrire.
Vous voyez ici l'ensemble de la vallée de Dien Bien Phu. La longueur de cette vallée, c'est environ 18 km. Les largeurs varient entre 2 et 8 km. Les Français étaient dans trois zones différentes. Au nord, vous avez trois collines, trois positions importantes. Béatrice, Gabriel et Anne-Marie. Les Français se concentraient surtout dans la zone centrale de la vallée. Cette zone même est divisée en sous-positions divisées par le fleuve Namun. Vous avez les collines Dominique, un peu au nord, les collines Elian, un peu au sud de cette zone centrale, et de l'autre côté, il y a d'autres collines qui portaient aussi des noms de femmes.
Oncle Maï, justement, les collines portent des noms de femmes. Donc, est-ce que c'est une carte que vous avez réussi à voler à l'ennemi? Parce que les Vietnamiens ne donnent pas des prénoms de femmes aux collines.
Exactement, c'est une carte française.
Est-ce que ça veut dire que c'est un butin de guerre? C'est une carte que vous avez volée aux Français?
Non, je suis incapable de l'avoir volée. C'est la photocopie d'une carte que d'autres ont pu récupérer.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La voix de Monsieur Mai dans La marche du monde. Il avait 17 ans à Dien Bien Phu. Tout comme Monsieur Cui, son expérience de la guerre d'Indochine remonte à l'enfance, juste après 1945, quand Ho Chi Minh lance son appel à la résistance.
Le premier jour de guerre pour moi, c'est le 19 décembre 1946, le jour du déclenchement de la résistance vietnamienne contre les Français.
Monsieur Cui, d'une façon générale, qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre la résistance et puis cette bataille de Dien Bien Phu?
Moi, je vois la bataille de Dien Bien Phu comme le dernier rendez-vous de cette résistance contre les Français, à cause de son ampleur, à cause de son importance. Quand nous étions à Dien Bien Phu, nous avions confiance en la victoire, alors que quelques mois auparavant, nous avions échoué à Na San, lors de l'attaque d'un bataillon français.
Le Viet Minh a en effet tiré les leçons de Na San et le général Giap va finalement revoir sa stratégie. Après avoir envisagé une attaque éclair pour une victoire rapide, ce sera une attaque sûre pour une progression sûre. Giap prend son temps. Il faudra 3 mois pour lancer l'assaut sur le camp français. En attendant, M. Nam participe aux diversions menées dans le Hoa Laos.
Aller au Laos, c'était une surprise totale pour nous, puisque nous étions prêts à attaquer le camp retranché et à le vaincre en 2 jours et 3 nuits.
Que deviez-vous faire? Quel était votre rôle? C'était une ruse?
Les Français ne savaient rien. Nous avons traversé une grande montagne qui divisait le Laos et le Vietnam. Mais nous ne savions pas où aller, ni pour quelle raison. Nous n'avions aucune carte. Heureusement, les Laotiens qui habitaient près de la frontière parlaient vietnamien. Donc, ils nous ont aidés à trouver notre chemin quand on s'est perdu. Tout au long de la route vers Luang Prabang, nous n'avons cessé de mener des combats contre les Français. Nous étions plusieurs compagnies à nous relayer. Quand nous sommes arrivés, c'était aux alentours du nouvel an lunaire. On m'a chargé de faire une diversion. J'avais avec moi un poste de communication au sein d'une unité où les hommes me protégeaient.
Donc vous faites aussi des transmissions radio. À qui envoyez-vous les messages et quels étaient ces messages?
En fait, je jouais le rôle du commandant de la division. Je faisais semblant d'être très occupé. Dans mes rapports, je devais montrer que j'étais en difficulté, que mes unités avaient du mal à progresser, que nous avions du mal à trouver du riz et que nous avions des problèmes de santé, des problèmes d'armement. C'était le type d'échange que nous avions entre le commandant en chef et moi.
Donc votre rôle, c'était bien de tromper les Français.
Je crois que la ruse a fonctionné car les Français pensaient que les Vietnamiens n'attaqueraient pas. Je suis rentré à Dien Bien Phu seulement après la chute des postes français, Gabriel et Béatrice.
La marche du monde est au Vietnam à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu la bataille de Dien Bien Phu. Une bataille que le général Giap a voulu décisive. Après avoir positionné ses unités tout autour du camp retranché du général français De Castres et après avoir réinstallé son artillerie, Giap donne enfin l'ordre d'attaquer. Nous sommes le 13 mars 1954.
Vous avez 20 ans, Monsieur Cui. Vous vivez cette bataille finale de Dien Bien Phu et vous évoquez pour nous votre combat le plus violent.
Le bruit des armes effaçait tout autre bruit. Je n'entendais pas mes camarades, pas de voix humaine. Il y avait un slogan qu'on a prononcé à ce moment-là, c'était « Pour les champs, pour les rizières, pour les paysans ». Et en entendant ça, beaucoup de soldats se mettaient à courir en avant.
Quels étaient les ordres de vos officiers quand vous arriviez à les entendre? Est-ce que c'était un moment aussi où on en faisait appel à votre désir de vengeance? Est-ce que c'était enfin l'occasion de se venger?
Les ordres de mes supérieurs et les encouragements que nous nous donnions entre soldats, c'était la même chose. C'était se venger des camarades tombés, se battre pour obtenir une rizière.
Monsieur Son, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la violence de la bataille de Dien Bien Phu?
Les combats sur Kelian 2, c'est là les combats les plus acharnés. Les combats jour et nuit, et parfois de corps à corps, parce que nous étions très proches l'un de l'autre, les Vietnamiens et les Français. Nos tranchées, et les tranchées françaises, à 20 mètres, presque communicantes, presque communicantes les tranchées. La colline, il y en a deux, à un. La superficie, plus de 2000 mètres carrés. Là, de notre côté, de 2 à 3000 morts et blessés. Sur 2000 mètres carrés. Imaginez.
Qu'est-ce que vous voyez autour de vous lorsque vous repensez à cette situation?
La colline a deux petits sommets. Le sommet plus haut, occupé par les Français, avec une fortification à moitié enterrée. Et nous occupions le sommet plus bas. C'est pas favorable du tout pour la défense et pour l'attaque. Et les deux petits sommets sont à 100 mètres l'un de l'autre. Et les tranchées partout, les barbelés, et nous avons des pertes humaines inimaginables de notre côté. des combats comme ça, on laissait dans les tranchées des cadavres et des blessés, pas encore évacués, parce que nous ne pouvions pas évacuer tous les blessés. Et c'était très, très douloureux, parce qu'on était obligés, en se déplaçant dans les tranchées, de piétiner les cadavres de nos frères d'armes. Et quand on passait dans les tranchées adversaires, sur les cadavres et les blessés des Français.
Est-ce que vous entendiez les soldats français parfois crier ou pleurer ou
crier,
appeler à
l'aide ? Gémir et pleurer et crier. Et j'ai été témoin de quelques cas où les soldats français, avant de s'éteindre, maman, maman, ou bien en prénom féminin, et c'était très émouvant, très douloureux, ça me faisait mal à mon cœur, très très mal à mon cœur.
Les enfants de Dien Bien Phu n'ont connu que la guerre et la pauvreté. Mais aux côtés des paysans et des ouvriers, une autre jeunesse, issue de la noblesse, a trouvé sa place. 9 années de révolution armée ont transformé Madame Thuan en parfaite infirmière.
Đây gọi là bệnh viện giã chiến. Tất cả chúng tôi là những người đi trước là đều phải tự xây dựng lại hầm mộ.
L'hôpital militaire à cette époque-là, c'était différents abris bien consolidés, moitié sous-sol. Nous devrions nous-mêmes creuser ces abris et trouver du feuillage pour camoufler ces abris.
Quand on est dans une situation de guerre, on n'a pas à disposition tous les médicaments et tous les produits comme en temps de paix. Comment faites-vous justement, par exemple, pour les anesthésies ? Pour les opérations des blessés du champ de bataille.
Có thể nói là của chúng tôi là một trong những cái đơn vị mặc dù đã được ở trên nó rất là gì đấy.
Notre unité était parmi les plus ravitaillées en équipement de soins. La guerre était tellement violente et longue que, au fur et à mesure, les équipements nous manquaient. Pour les opérations lourdes, pour faire l'anesthésie, il y avait des masques. Sur le visage des gens, nous avons utilisé de l'éther et de
chloroforme
éther pour endormir les gens.
Quelles étaient les blessures spécifiques justement à Dien Bien Phu ?
Les plus souvent, ce sont des blessures à la tête, des blessures sur la poitrine ou l'abdomen. À cette époque-là, nous n'avions ni les moyens ni la connaissance nécessaire sur place pour pouvoir procéder à des opérations pour les soigner. Les blessés à la tête, la nuit souvent, ils faisaient des cauchemars. Ils criaient et des fois, ils étaient pris par des crises d'apoplexie.
Nhưng mà có những lúc mà không có thủ thuốc mà thương binh nó rất là dũng cảm.
Il nous est arrivé de n'avoir rien du tout pour des opérations lourdes. Des blessés graves, très très courageux, nous ont dit « Allez-y, faites votre opération, je peux supporter la douleur ». Donc nous avons procédé à l'opération et nous avons dû aussi chanter pour... voilà.
C'est-à-dire, racontez-moi ça.
Thời gian đó thì nhiều cái bài hát lắm, những cái bài hát mà của các chiến sĩ mà đã và vấn đề.
Il y avait plein de chansons à cette époque-là pour encourager les soldats, pour nous encourager. Des chansons qui disaient nous allons là où il y a encore l'ennemi, ou d'autres chansons qui fait penser à la victoire finale et au moment où nous pourrons revenir au village natal. Tout ça pour aider les gens à penser à l'avenir. Nous allons gagner.
Monsieur Son, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir pendant cette longue bataille ? À quoi vous vous êtes accroché, vous ?
Moi et mes compagnons d'armes étaient des vrais patriotes. Nous avons pu tenir ferme. grâce à l'amour de la patrie. Et c'est très simple et très clair pour nous. En 1949, immédiatement après mon baccalauréat, je me suis engagé dans l'armée populaire pour combattre. Et j'ai été obligé de tricher sur mon âge pour pouvoir m'engager, imaginez. J'avais 17 ans et j'ai déclaré que j'ai 18 ans révolus pour qu'on me prenne dans l'armée, volontaire. Et vous pouvez noter que le service militaire obligatoire, c'était seulement depuis 1958. C'est-à-dire depuis 1945 jusqu'à 1958, l'armée populaire du Vietnam ne comprenait que des volontaires.
Déterminés, les 51 000 Vietnamiens disposent d'une puissante artillerie, tandis que les 12 000 hommes du camp retranché français ont encore une base et un appui aérien. Grâce au renfort de 3 000 parachutistes, le général De Castries va réussir à tenir près de 2 mois. Des deux côtés, Français et Vietnamiens vivent un enfer. Écoutez M. Quy, il participe à l'assaut final.
Quand nous avons reçu l'ordre d'avancer, j'ai amené mon unité à la position 17 de l'ennemi. Nous étions à une quinzaine de mètres de cette position. Nous sommes arrivés intacts et j'étais très content de cela. L'autre camp déclenchait des dynamites. Je me suis dit, comme je suis chef du groupe, il faut que je fasse quelque chose. J'ai demandé à mon voisin, qui s'appelle Nchi, de me donner son pain qui pesait 15 kilos.
15 kilos de dynamite.
J'ai pris ce pain d'explosif de 15 kilos et j'ai couru vers la position 17 ennemis. J'ai découvert une brèche et au même moment, il y a eu des tirs de mitraillette. J'ai reçu en pleine figure ces tirs-là. Je sais que j'ai été blessé, mais j'ai eu quand même le temps de déclencher l'explosif. Nous avions fait exprès de laisser une mèche de 3 cm seulement. Il fallait 6 secondes pour que ça explose. Je me suis retourné et au bout de 5 ou 6 mètres seulement, j'ai entendu un énorme bruit, j'ai été projeté en l'air et quand je suis tombé, je sentais que mon sang coulait partout et après, j'ai perdu connaissance.
60 ans après, M. Quy évoque la conviction avec laquelle il s'est battu à Dien Bien Phu, avec beaucoup de précision, mais aussi de la douceur et de l'humilité. Sa parole contraste avec le discours héroïque diffusé par le musée de l'armée à Hanoï.
À 15h du 7 mai, nos troupes déclenchent l'offensive générale suivant deux directions est et ouest. À 17h30, le général de Castries et tout son état-major sont capturés vivants. Le drapeau est planté au faîte du poste de commandement du camp. À Isabelle, les ennemis cherchent des moyens de se retirer au Haut-Laos, mais ils sont tous arrêtés et capturés vivants. La campagne historique des Mifou s'est clôturée à 24h du 7 mai 1954.
Oncle Maï, il y a ce mythe magnifique de ce drapeau planté au sommet du camp français. Alors, c'est un mythe ou c'est une réalité ?
Pour moi, le drapeau, c'était plus tard, lors du tournage du documentaire. Il n'y avait pas de drapeau le jour de la victoire sur le QG du commandement français. Parce que vers 17h30, le 7 mai 1954, lors de l'assaut final, il y a eu des unités de la division 312 qui ont pu approcher le QG de De Castres. Par surprise, parce qu'ils venaient de loin, de Béatrice. Ils ont traversé le fleuve Namoun. Je pense que le drapeau, c'était beaucoup plus tard.
Oncle Maï, est-ce que vous-même, vous avez été blessé physiquement lors de cette dernière bataille ?
J'ai été blessé, mais pas lors du combat. J'ai été blessé après la victoire. J'ai marché trop vite et je me suis pris les pieds dans des barbelés. Donc j'ai été hospitalisé quelques semaines.
Oncle Maï, à quel moment vous avez compris que c'était la victoire et à quel moment vous avez compris que c'était la victoire de la guerre ?
Bây giờ thì phải nói rằng là lúc bây giờ thì không cần ai phổ biến cũng biết là chiến thắng rồi.
Je crois que c'est vers 8h du matin, le 7 mai 1954, que toute la région d'Elian a été aux mains du Viet Minh. Donc dès le matin du 7 mai, pour nous, cette région était libérée. Plus tard, l'après-midi, nous avons vu des soldats français qui traversaient un pont sur le fleuve Namun avec des morceaux de parachute blanc. On n'avait pas reçu de message des supérieurs, mais j'ai su à ce moment-là que c'était la victoire.
Qu'avez-vous ressenti dans votre cœur? Vous êtes un jeune homme, rappelez-nous quel âge vous avez et ce que vous ressentez.
Le 7 mai, je venais d'avoir 18 ans et quelques semaines. Pendant longtemps, nous étions dans des abris souterrains. Et là, on ne se cachait plus, on était dehors, on voyait tout le monde. Donc c'était quelque chose de très spécial. On ressentait tous des émotions très fortes. Beaucoup ont applaudi ou ri, mais beaucoup ont pleuré aussi. Parce que nous avons pensé à nos amis disparus lors des combats.
À Dien Bien Phu, le bilan humain est très lourd. La moitié des combattants vietnamiens seraient morts ou blessés. Et du côté français, 10 000 hommes sont faits prisonniers, ce qui correspond à 2/3 des effectifs. Monsieur Nam, la bataille de Dien Bien Phu a été d'une violence extrême. Est-ce que vous vous attendiez à ça?
C'est la guerre. Les violences étaient évidentes. La mort côtoyait la vie à tout instant. Mais c'est seulement après la guerre que j'y ai beaucoup pensé. Bien sûr, on parle de victoire, mais moi, je pensais au sacrifice que ça représente. Tous ces morts et ces blessés lors de la bataille, je dirais que c'est le quotidien de la guerre. Pour nous, c'était un devoir de nous battre pour notre indépendance. Mais le jour de la victoire, je suis sorti des tranchées. Je me souviens, la terre était très aride. Et moi, j'ai lu un poème en pensant à ma mère.
Vous vous souvenez de ce poème?
Mẹ ơi, đừng khóc làm gì. Vui lên, con trẻ ra đi ấm lòng. Mẹ già, số kiếp long đong, 60 tuổi lẻ, vẫn không an nhàn. Mẹ tôi, nước mắt chứa chan, lặng nhìn con trẻ lên đàng chiến trinh. 8 năm xa khuất bóng hình. Mẹ tôi còn sống hay thành người xưa? Đến bây giờ, đã đến giờ, chiến chinh sẽ tắt, bóng cờ ngập sao. Tôi về sau lũy tre cao.
Je voulais lui dire que je reviendrai très vite, que j'allais la serrer dans mes bras, que je reviendrai au pays natal, qu'il y avait des milliers de morts et que les sacrifices étaient des deux côtés. Mais moi, je serai près d'elle. Ce poème, je l'ai fait le jour même de la chute de Dien Bien Phu. Je voulais parler à ma mère. Ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vue. Je ne savais même pas si elle était encore vivante. Elle avait 60 ans.
La guerre est finie. Et finalement, sur les 10 000 Français faits prisonniers, il n'en reviendra que 3 300, totalement épuisés et affamés. Mais n'oublions pas que dans les troupes françaises se trouvaient des soldats indochinois et africains. Que sont-ils devenus? La question reste posée. Ce qui est sûr, c'est que la défaite française à Dien Bien Phu a réveillé les peuples colonisés. Monsieur Son, quelques mois après la victoire de l'armée populaire vietnamienne à Dien Bien Phu, il y a en Algérie le début de la guerre d'indépendance des Algériens. Et certains Algériens était venu ici, en Indochine, dans les rangs des troupes françaises, pour se battre contre vous. C'est pour ça que vous m'avez parlé d'une guerre contagieuse?
Révolution contagieuse. Je trouvais nettement que les soldats d'origine africaine, dans le corps insurgent français, originaires des pays coloniaux français, étaient très impressionnés par l'armée populaire du Vietnam. Très impressionnés. Parce qu'avant, ils pensaient que c'était une armée communiste, rebelle, ce sont des pirates. Et vous savez, l'image du communiste, avant, c'était l'image d'un assassin avec un couteau entre les dents. Et puis, les Viet Minh coupaient le nez, les oreilles des prisonniers, ou bien tuaient, maltraitaient. Mais quand les Africains sont faits prisonniers, là, ils commencent à comprendre. Qu'est-ce que c'est la révolution? Et l'armée vietnamienne est vraiment une armée patriotique, une armée du peuple qui combat pour l'indépendance et la liberté.
Les enfants de Dien Bien Phu, deuxième épisode. C'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec la complicité de notre stagiaire Philippine Veil. Un grand merci à Dao Tan Nguyen pour la qualité de ses traductions. Je vous rappelle son livre, Dien Bien Phu vu d'en face, c'est aux éditions Nouveau Monde. N'oubliez pas de vous exprimer sur Facebook, réagissez, marche.monde@rfi.fr, podcastez, cette émission c'est la vôtre.